C'est notre moment avec Annie Boiland, présidente du réseau Annie RH. Bonjour Annie.
Bonjour Valérie.
On entend parler ces derniers jours de l'accroissement de la taille de l'État. Il y a eu toutes sortes de caricatures aussi sur le sujet. Ça fait plus de revenus pour les syndicats aussi, mais qu'est-ce qu'on sait au juste de l'utilisation de ces fonds par les syndicats?
Alors, c'est une question, on prend notre courage à deux mains, Valérie. C'est une question qui est souvent polarisante dans la société. C'est un peu pour, contre les syndicats. Donc, avec ce courage entre nos deux mains, je nous propose une réflexion sur deux sujets qui sont des polémiques présentement, qui font réfléchir. Donc, ce qu'on sait, c'est d'abord l'accroissement de la taille de l'État. Ça représente automatiquement un accroissement des fonds pour les centrales syndicales, puisque plus d'employés, ça fait par définition plus d'employés syndiqués et donc de cotisations syndicales. On estime présentement, on ne peut pas avoir un chiffre exact, mais on estime que ce sont dans les millions de dollars que ça représente pour nos centrales syndicales. Il en est ainsi parce que c'est un ratio en moyenne de au moins 1 sur 10. Donc, pour chaque employé, pour chaque gestionnaire, il y a au moins 10 employés. Donc, sur 4 000, par exemple, l'augmentation de la taille de l'État provincial, 4 000 nouveaux employés, bien, il y en a au moins 9 dixièmes de ça qui devraient être dédiés au service à la population. Typiquement, là, ce sont des employés syndiqués. Puis, on peut pas savoir la masse salariale exacte de ces employés, mais si on pense récemment, la presse titrait le fait qu'à Montréal, pour la ville de Montréal, un fonctionnaire sur trois gagne plus de 100 000 $. Fait qu'ils sont... Évidemment, on compare un peu pommes et bananes ici. Là, on parle de la fonction publique provinciale, puis municipale. Mais c'est juste pour se donner un ordre d'idée. C'est comme ça qu'on en arrive à des millions dans les poches des centrales syndicales avec un accroissement de la taille de l'État.
OK. Donc, une augmentation assez significative quand même. On va retourner à la base de l'économie, de nos cours d'économie. Annie, explique-nous là en gros pourquoi les employés de l'État sont obligés de payer une cotisation syndicale.
Oui, hein, parce qu'il y a des gens qui nous diront, moi, je ne souhaiterais pas être syndiqué, pourquoi dois-je payer ma contribution syndicale? Donc, on revient à la formule REND qu'on sait, hein, qui existe au Canada, au Québec, depuis environ une cinquantaine d'années. C'est le juge REND qui fut premier à dire, écoutez, si dans une unité d'accréditation, donc une population d'employés là, qui sont protégés par une convention collective et par ricochet par leur syndicat, si tous les employés d'une convention, d'une unité d'accréditation sont protégés, alors on demandera à tout le monde de payer leur cotisation syndicale, à tous ces employés de payer une cotisation. C'est ainsi là que c'est ça qui explique qu'au Québec, on ne peut pas faire partie d'une unité d'accréditation et ne pas payer de cotisation syndicale, même si, soit philosophiquement ou dans les faits, là, on n'est pas membre de notre syndicat. On ne peut pas signer notre carte de membre, par exemple.
En effet. Puis qu'est-ce qu'on sait sur la gestion des centrales syndicales?
Eh bien là, Valérie, on en arrive dans les grands débats de société. Peu. Parce que un des enjeux, c'est que les centrales syndicales n'ont pas d'obligation légale de dévoiler publiquement le détail de leur gestion financière. Ce qui va donc dire, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent et c'est en partie pour ça qu'on nous en parlons aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, attends, il y a une adéquation ici. Comment se fait-il que des employés soient obligés de payer une cotisation syndicale et que le syndicat n'est pas redevable aux contribuables, n'est pas redevable à ses employés de partager ces informations financières? Et il y a des gens qui disent, soit tu es obligé de payer puis tu es obligé d'être transparent, ou il n'y a pas de transparence, mais il n'y a pas d'obligation. Là, on se retrouve dans une situation un peu plus non conventionnelle où les employés sont obligés de payer, mais il n'y a pas de transparence qui est imposée au syndicat. Et rappelons qu'au Canada, les contributions syndicales, là, c'est 4 milliards par année d'argent, de dollars. Ça représente, parce que toutes ces cotisations syndicales, ça donne droit à des sympathiques crédits d'impôt, ça représente pour 500 millions de crédits d'impôt au fédéral seulement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, hey, là, ça devient de l'argent public. Comment se fait qu'on n'en sait pas plus sur les détails des utilisations de ces fonds-là? Donc, ça, c'est une question. Donc, la réponse est à ce point-ci. Non, ils ne sont pas contraints légalement de le partager à tout le monde, au public comme info.
Puis les centrales, ils peuvent utiliser les contributions de leurs membres à leur guise?
Eh bien oui, Valérie, ça c'est la deuxième, je dirais, polémique autour de tout ça. C'est le fait que les centrales syndicales ne sont pas contraintes à utiliser les fonds pour la protection des employés syndiqués. En fait, elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec ces fonds-là. Et là, il y a des gens qui disent aussi, ben là, attends un petit peu, si les employés sont obligés de verser leurs contributions syndicales, les syndicats ne devraient-ils pas être obligés d'utiliser ces fonds-là pour la gestion de la vie syndicale? Puis là, ça veut dire négociation de conventions collectives, application, gestion de la convention, ça peut être gestion des griefs, défense des griefs, constitution d'un fonds de grève. Ça, c'est la vie syndicale. Mais non, puis on se souvient dans le passé, Valérie, il y a des centrales syndicales qui ont appuyé des partis politiques, par exemple. Fait que là, il y a des gens qui peuvent dire, « Hey, attends un petit peu, moi, je suis obligée de contribuer à mon syndicat, mais on défend le parti politique qui n'est pas le mien, tu sais. » Fait que ça fait des imbroglios comme ça.
Effectivement.
Je te donne un dernier exemple, Valérie, est-ce qu'il nous reste quelques secondes?
Rapidement.
Rapidement. Alors, je reviens avec l'exemple de Magali Picard, qui était la présidente syndicale dans le temps, il y a quelques mois, là, du temps de la négociation des profs, qui, elle, était partie à Dubaï pour la COP28.
Oh oui, elle se l'est fait dire,
Oui, c'est ça. Il y a des syndiqués qui pourraient dire, « Hey, moi, je veux protéger l'environnement, mais je ne crois pas que d'acheter des billets d'avion Montréal-Dubaï aller-retour, c'est la façon de le faire. » Ça, on peut s'entendre, là, sur 60 000 profs, il pourrait y en avoir quelques-uns qui se diraient ça. T'sais, moi, je veux protéger l'environnement, mais je ne veux pas le faire en achetant des billets d'avion comme ça. Ça, c'est pas, je ne crois pas à ça. Est-ce que l'employé syndiqué pourrait avoir un recours sur l'utilisation de sa cotisation syndicale? Alors, c'est un autre exemple qui peut témoigner un imbroglio, une certaine disparité, parce que l'employé est obligé de payer, est en désaccord avec l'utilisation de sa cotisation syndicale pour l'achat de billets d'avion, mais se retrouve à rien avoir à dire. Vraiment, le syndicat peut l'utiliser comme ça, à sa guise, sa contribution.
Et
Valérie, on était courageuses de se parler de ces grands débats, là, présentement.
Ben, bravo à toi, Annie. On remet ça la semaine prochaine?
Avec grand plaisir.
Bye-bye. Annie Boiland, présidente du réseau Annie RH.